Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Ebola à Ituri, le gouvernement renforce la riposte, rend hommage aux soignants victimes de l'épidémie et instaure une quarantaine obligatoire de 21 jours pour toute personne en provenance des zones affectées. Béni, dernier jour de l'examen d'état, les finalistes affichent confiance et espoir, tandis que l'autorité urbaine salue le respect du mot d'ordre contre les bavures. RDC, 31 violations contre les défenseurs de l'environnement, l'ONG ACDH dénonce répression et attaque dans son rapport publié le 23 juin 2026. Pour en parler, nous recevons Maître Olivier Ndolé, secrétaire exécutif de cette ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ebola à Ituri, le gouvernement congolais salue les efforts fournis par les personnels soignants qui sont en première ligne pour sauver la vie des personnes atteintes de cette épidémie. Selon le ministre de la Santé publique et Hygiène, depuis la déclaration de cette maladie hémorragique le 15 mai dernier, plus d'une dizaine de personnels soignants ont déjà été victimes de cette maladie. Roger Kamba a également fait allusion au dernier cas du médecin traitant des nationalités françaises qui travaillait pour l'ONG à Lima au centre de traitement d'Ebola de Rwampara à la périphérie sud-ouest de Bunia, déclaré positif mercredi à Paris en France. Un extrait du ministre de la Santé publique et Hygiène choisi par Martial Kizabiamongo.
C'est un vrai cas contact des malades de l'ONG à Lima, où travaillait d'ailleurs ce réanimateur, à Rwampara, où je suis parti voir. Parce que ça, c'est un cas qui montre que quelqu'un de très expérimenté comme lui, mais au bout d'un mois, au bout de plusieurs semaines, une erreur peut arriver dans la précaution. Et nous avons donc su ce médecin qui a fini son tour, est parti en France. C'est en arrivant en France, parce qu'ici, il n'avait pas de symptômes. Il est passé par ici le 19, il est parti le 22. Il n'avait pas de symptômes, donc il n'était pas contagieux. Il a été contrôlé à l'aéroport avant son embarquement, il n'avait pas de fièvre. Et c'est en arrivant en France, il a présenté des signes légers. Mais comme c'est quelqu'un qui travaillait avec les malades qui étaient contaminés, donc il connaissait les signes, il est parti se présenter à l'hôpital. Et là, on a fait le test, et le test était positif.
Cependant, dans le cadre du renforcement de la riposte contre la maladie à virus Ebola, le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce que toute personne en provenance des zones affectées par Ebola devra observer une période de 21 jours avant tout déplacement sur le territoire national ou à l'international. Dans le même registre, l'Organisation mondiale de la santé annonce le lancement dès la semaine prochaine d'un essai clinique en République démocratique du Congo. Deux traitements potentiels contre les virus Ebola seront testés alors que l'épidémie continue de progresser malgré le renforcement des mesures de riposte. Lors d'un point de presse à Genève, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a confirmé que les préparatifs étaient désormais achevés pour le démarrage de cet essai. Plus de détails avec vous, Alain Irung.
Selon les directeurs généraux de l'OMS, l'essai évaluera si deux antiviraux MBP-134 et Remdesivir peuvent aider à réduire la mortalité chez les patients atteints de la maladie à virus de Bundibugyo seul ou en combinaison. L'OMS a remercié les États-Unis et Gilead Sciences pour le don de doses destinées à l'essai. Avec nos partenaires, nous annoncerons plus d'informations la semaine prochaine. L'OMS et nos partenaires travaillent en étroite collaboration avec les communautés pour les informer et les impliquer dans l'essai. Nous travaillons également à garantir que les communautés aient accès au traitement s'il s'avère sûr et efficace, a indiqué Dr Tedros Adhanom. Enfin, l'OMS a précisé que l'essai sera conduit par un consortium de partenaires incluant l'Institut national de recherche biomédicale de la RDC, à Lima, l'Université d'Oxford et l'OMS.
Autre chose, à Kananga, l'accès à l'eau potable est devenu un véritable parcours du combattant. Depuis plus de 2 semaines, les robinets de la régie des eaux restent à sec. Face à cette pénurie inédite, les habitants se tournent vers le puits et les forages, mais l'eau qu'ils y trouvent est souvent impropre à la consommation. Chaque jour, femmes et jeunes filles parcourent de longues distances pour s'approvisionner. Reportage signé André Katende, Ngaramurume.
Bidons, bassines et seaux à la main, des femmes et des jeunes filles sillonnent les quartiers de Kananga à la recherche d'eau. À l'origine de cette situation, l'arrêt de la desserte en eau de la régie des eaux depuis plus de 2 semaines. Conséquence, des longues files d'attente se forment aux sources, aux puits et aux forages. Parfois, il faut patienter plusieurs heures avant de remplir un seul bidon. Près du terrain de football de l'abattoir, au niveau d'un forage, Hélène Chabou attend son tour. Elle raconte son calvaire.
J'ai déjà 5 heures ici et je ne sais pas à quelle heure je dois rentrer à la maison pour accomplir d'autres tâches.
Pour éviter ces interminables attentes, certaines femmes prennent des risques. Elles se rendent au point d'eau très tôt le matin ou tard dans la nuit. C'est le cas de Brigitte Mbombo, habitante du quartier Tinsambi.
Je me réveille à 5h30 pour aller à la source. Cela me permet d'avoir facilement de l'eau.
De nombreux habitants consomment une eau dont la qualité n'est pas garantie. Pourtant, les risques de maladies d'origine hydrique sont bien réels. Jusqu'à présent, aucune réaction officielle de la régie des eaux. Face à cette crise, la population appelle à l'implication urgente des autorités provinciales et nationales. Kananga, André Katendengalamoulumé, Radio Kapi.
Et puis la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo dénonce le meurtre de 2 de ses volontaires dans les territoires de Walungu au sud Kivu. Ce crime, survenu le 16 juin, a pris pour cible des humanitaires alors qu'ils exerçaient leur mandat. L'organisation déplore une grave violation du droit international humanitaire. Dans un communiqué de presse publié mardi 23 juin, la Croix-Rouge RDC révèle que les victimes sont Biamungu Mugisho Kabua et Mugisho Mparanya. Tous deux ont été exécutés alors qu'ils supervisaient des travaux d'adduction d'eau potable destinés à la population en détresse dans les villages de Kakumba, au centre de Muchiru, dans les territoires de Walungu. Ronéline Tibonera pour les détails.
Selon ses communiqués, le président national de la Croix-Rouge de la RDC déplore que, malgré le fait que leurs bourreaux connaissaient la raison de leur présence sur le terrain et l'emblème qu'ils arboraient, ces humanitaires aient été pris pour cible. Dans une zone où la terreur est imposée par des groupes armés, Edgar Mateso condamne fermement ces agissements qu'il qualifie de graves violations des principes humanitaires. Pour lui, ces crimes rappellent les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles les humanitaires exercent dans l'est du Congo. Dans une région où les populations sont les premières victimes des combats à répétition, la Croix-Rouge souligne que ce sont les efforts déployés par les humanitaires qui apportent un minimum de soulagement aux communautés affectées. Edgar Mateso rappelle que les attaques contre les humanitaires constituent une menace sérieuse, réduisant leur capacité d'action. Il plaide pour un renforcement de mesures de protection à leur égard. Malgré la douleur et sentie, la Croix-Rouge RDC rassure qu'elle ne délaissera jamais les populations victimes des affres de la guerre et qu'elle compte redoubler d'efforts pour soulager leurs souffrances, peut-on lire dans les documents. A noter que ces meurtres portent à 6 le nombre d'humanitaires tués dans l'est du Congo depuis le début de l'année 2026.
Dernier jour, ce jeudi, de la session ordinaire de l'examen d'État dans la ville de Beni. Dans les 18 centres de passation que compte la ville, les élèves finalistes ont affiché des signes d'espoir et de confiance à l'issue des épreuves. Par ailleurs, le mot d'ordre de l'autorité urbaine interdisant les bavures en marge de cette journée a été globalement respecté malgré quelques cas isolés. Marc Marofimbo a fait le tour de la ville. Voici son récit.
Déjà aux environs de 9h locales, les premiers finalistes ayant terminé leurs épreuves quittaient les salles d'examen. Dans les 18 centres que compte la ville de Beni, 6275 candidats, dont 3151 filles, ont effectivement pris part à cette session. La plupart se disent optimistes quant aux résultats, malgré les épreuves scientifiques jugées particulièrement difficiles.
Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour. Ça s'est passé très bien. Depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui, les jours où étaient un peu difficiles, c'était hier mercredi. C'était mathématiques, chimie et physique. J'espère que ça ira avec 70%.
Bon, ça s'est passé, c'était carré, c'était cool en fait. En fait, toutes les days, c'était carré en fait. Je crois bien que c'était hier. Hier, la mathématique, la physique et autres, c'était vraiment chaud.
Les examens s'est bien passé, mais le jour où il y avait des difficultés, c'est le mercredi. Il y avait maths, physique et la chimie aussi.
La veille, l'autorité urbaine avait formellement interdit tout acte de bavure, notamment les déchirements des uniformes ou des comportements indisciplinés à la sortie des centres. Si ces consignes ont globalement été respectées, un incident isolé a cependant été signalé au quartier Boutili où une altercation a éclaté entre des finalistes et certains étudiants qui tentaient de leur ravir leurs effets personnels. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Province du Lualaba, l'entreprise Rwashi Mining est accusée de pollution de l'environnement à Kolwezi à la suite de ses activités minières. À ce sujet, le député Eddy Ilunga a saisi l'Assemblée nationale. L'objectif est d'obtenir l'implication du gouvernement pour prendre des mesures contre cette entreprise et obtenir la réparation des préjudices causés auprès des victimes. C'était avant la clôture de la session ordinaire. Le point avec Paulin Munanga.
Dans sa motion d'information, le député Eddy Ilunga a fait savoir que depuis le début de ses activités il y a 6 mois, l'entreprise Rwashi Mining expose la population du quartier d'Ilungu qui habite dans les alentours à la pollution à la suite de ses activités minières. Pour le député Eddy Ilunga, cette démarche vise à obtenir l'implication du gouvernement afin de faire cesser cette pollution dénoncée par la population et exiger des mesures de réparation.
La population est exposée à une détérioration grave sur le plan sanitaire. Les enfants sont en train de saigner par le nez. Les toitures sont détériorées, perforées par ces acides-là. Nous avons demandé au bureau d'instruire l'exécutif pour que cette entreprise Rwashi Mining puisse d'abord arrêter ses activités avant toute délocalisation. Nous avons aussi ajouté qu'il ne suffit pas seulement de délocaliser cette population, il faut aussi réparer les dommages.
Aucune réaction pour le moment des responsables de Rwashi Mining à Kolwezi. Il y a 3 mois, la ministre nationale de l'Environnement s'était rendue sur les lieux pour s'imprégner de la situation et elle a demandé la délocalisation en urgence de la population exposée à la pollution. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
À Goma, l'ONG Tirfond poursuit son projet de mobilisation des confessions religieuses et des communautés locales afin de répondre de manière plus efficace aux besoins de leurs fidèles. Dans ce cadre, une série de formations axées sur le développement d'une vision holistique et intégrale a été organisée cette semaine à l'intention des facilitateurs du processus de mobilisation de l'Église et de la communauté Pemek ainsi que des leaders religieux. Le projet vise à favoriser une capacitation des fidèles pour améliorer leur bien-être et renforcer leur autonomie. Plus de détails avec Bernardine Diambo.
Mardi et mercredi, les participants ont échangé leurs expériences et identifié leurs besoins prioritaires pour améliorer leurs conditions de vie quotidienne. L'objectif est d'aider les fidèles à sortir de la dépendance et à devenir plus autonomes. Selon le chargé de la mobilisation au sein de Longevity Fund, certaines églises locales mettent davantage l'accent sur le spirituel en négligeant les aspects socio-économiques de leurs membres. Édouard Saïdi.
Nous avons constaté que des églises locales, certaines bien sûr, s'attellent à la transformation aux besoins spirituels de leurs membres, tout en ignorant les volets sociaux, les volets économiques, justice, alors que l'homme a besoin de toutes ces dimensions.
Cette approche qui prend en compte les conditions de vie des fidèles a été bien accueillie par les participants. C'est comme en témoigne cette fidèle d'une église chrétienne de Mugunga dans la périphérie ouest de Goma.
C'est très très important, ça nous aide à répartir le temps de Dieu, même si nous sommes en train de prier, parce que beaucoup de Congolais aiment beaucoup la prière. Oui, servir Dieu c'est bien, mais il faut savoir répartir le temps.
Tifound attend que les facilitateurs formés intensifient la sensibilisation afin de promouvoir l'autonomie et de réduire la dépendance à l'aide humanitaire au sein de leurs communautés respectives. Goma, Bernardine Diambo, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit dans la province de la Chuapa. L'ampleur des difficultés de mobilité auxquelles font face les populations de Bokungu, l'état d'impraticabilité avancée des routes, notamment de la route nationale numéro 8, ainsi que la baisse significative du trafic observé qui traduisent l'isolement progressif de plusieurs territoires de la province de la Chuapa, telles sont les réalités rencontrées par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba. Ce dernier a achevé ce mercredi sa mission économique dans la province de la Chuapa par une étape dans les territoires de Bokungu. Les échanges avec les opérateurs économiques ont également mis en évidence la faiblesse de l'activité économique locale, l'absence des services bancaires, les difficultés d'accès au crédit ainsi que les contraintes liées au transport fluvial, principal moyen de desserte de la région. Daniel Moukoko Samba revient sur les mécanismes à mettre en œuvre pour relancer les activités économiques dans ces territoires. Il est dit au micro de Radio Okapi.
J'ai mis 11 heures pour partir de Boende à Bokungu, mais je tenais à arriver à Bokungu pour me rendre compte de la situation réelle. Il est évident que nous sommes ici dans un territoire où l'activité économique est très faible. Elle est vraiment très faible et cela se manifeste sur le pouvoir d'achat de la population, qui est également faible. Cela se manifeste aussi sur l'état sanitaire de la population. J'ai visité l'hôpital de Bokungu aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'il y a réellement de l'insécurité alimentaire. En tant que gouvernement de la République, c'est notre responsabilité d'assurer que tout ce qui bloque le développement économique de Bokungu soit levé. Dans le court terme, le gouvernement, à travers mon ministère, va initier un certain nombre de projets d'urgence ici à Bokungu, l'appui aux associations des mamans agricultrices et le plaidoyer que je vais faire également pour que les travaux du PDL 145 territoire, qui sont quasi à l'arrêt dans le territoire de Bokungu, soient relancés et achevés le plus rapidement possible.
Notez que lors de ces échanges avec les représentantes de la Ligue des femmes de Bokungu ainsi que celle de l'association des mamans maraîchères qui fédère près d'une soixantaine d'associations, il a relevé leurs besoins en semences améliorées, équipements agricoles et matériel destinés à renforcer la production maraîchère locale. Cette mission dans la province de la Chuapa a permis de confirmer que le principal défi de nombreux territoires de la cuvette centrale n'est pas l'absence de ressources, mais leur déconnexion progressive des marchés, note le ministère de l'économie.
Actualité internationale.
Ce jeudi 25 juin, à partir de 20h temps universel à Philadelphie, la Côte d'Ivoire peut écrire la plus belle page de son histoire mondiale. Une victoire contre Curaçao offrirait aux éléphants une première qualification pour le second tour, là où les générations Drogba et Yaya Touré ont échoué.
L'invité.
Nous recevons Maître Olivier Ndolé, secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains, ACDH. Son organisation a publié le mardi 23 juin 2026 un rapport intitulé « Répression et attaque contre les défenseurs fonciers et climatiques ». Cette enquête documente au moins 31 cas de violations graves des droits et libertés des défenseurs de l'environnement et des droits fonciers dans 5 provinces de la RDC. Quelles sont les motivations et les principaux enseignements de ce travail? Maître Olivier Ndolé s'exprime à ce sujet dans cet entretien avec Bernardin Nyangui.
Maître Olivier Ndolé, bonjour. Vous avez produit le rapport qui couvre la période du 1er août 2025 au 31 mars 2026 et vous avez documenté 31 cas de violations graves affectant les droits et les libertés des défenseurs de l'environnement et des fonciers. Comment sont répartis ces cas?
Oui, ce rapport donne les bilans à ce qui concerne la situation des défenseurs et militants climatiques. Nous avons enregistré plus de cas à ce qui concerne des graves violations des droits et libertés. Nous avons 12 cas de meurtres et assassinats contre les défenseurs et militants climatiques en République démocratique du Congo qui ont été documentés durant cette période du rapport. Il y a des cas en termes de poursuites bâillons qui sont orientés contre des défenseurs et militants climatiques. Et là, nous avons plus de 16 affaires qui sont engagées contre des militants et défenseurs climatiques en République démocratique du Congo, ce qui représente un chiffre inquiétant en ce qui concerne les droits et libertés en termes d'exercice de leur travail. Pourtant, c'est une obligation constitutionnelle et leurs activités, les actions qui sont menées sont protégées et reconnues par des lois en République démocratique du Congo. Mais force est de constater que les entreprises, certaines autorités, des personnes bien placées utilisent les instances judiciaires, les systèmes judiciaires dans son ensemble pour obtenir des poursuites qui sont apparemment légalement acceptées sur le plan procédural parce qu'on utilise les autorités habilitées pour inquiéter les défenseurs pour qu'ils puissent céder par rapport à cette pression. Donc ce sont les gymnastiques judiciaires visant à décourager l'action de défenseurs, ce qui est condamnable. Il y a d'autres violations, notamment des menaces, des enlèvements et aussi d'autres formes de violations qui entravent la liberté des manifestations pacifiques, la liberté d'opinion, la liberté même de diffuser des rapports.
Ce rapport couvre combien de provinces et pourquoi avoir ciblé cet espace-là pour cette enquête?
Les provinces qui sont concernées, vous trouverez que c'est une configuration axée sur les provinces à forte production minière, les provinces à forte couverture forestière, mais aussi à parcs nationaux, mais aussi d'autres provinces qui ont des blocs pétroliers qui sont beaucoup plus aussi concernés par ces graves violations. Et là, je vois par exemple la province de Nord Kivu, la province de l'Ituri, la province de Haut-Uele et Bas-Uele, la province de la Chuapa, la grande province d'Ex-Équateur, la province de Kinshasa et aussi la province du Congo central.
Le rapport a quel objectif et pourquoi cette enquête en fait et qu'est-ce que vous recommandez pour que la situation puisse être améliorée?
Globalement, vous trouverez que ces graves violations sont dans toute impunité. Et c'est pour cette raison que nous interpellons encore une fois les autorités avec des recommandations visant non seulement à réformer sur le plan institutionnel, mais aussi sur le plan juridique pour que nous puissions avoir des politiques publiques qui sont sensibles à cette situation. Mais aussi, on alerte l'opinion nationale et internationale pour qu'il y ait plus d'action, plus d'activité, visa donc à tirer plus d'attention sur la situation des défenseurs et militaires climatiques. Et nous interpellons encore une fois le monde de manière globale que lorsque on traite les questions climatiques, l'on ne puisse pas isoler la question climatique, la question des revendications de justice climatique à côté avec ces milliers de défenseurs qui payent de leur vie, qui payent de leur liberté, ces combats qui visent à protéger cette nature. Il faudra aussi avec les acteurs privés qu'il y ait des stratégies beaucoup plus générales qui visent à documenter les cas, à apporter ces cas-là devant les autorités, à mener des plaidoyers, des discussions beaucoup plus démocratiques pour que la situation soit améliorée et tenir compte du défenseur de la base parce que c'est eux qui sont à proximité avec nos rivières, avec nos lacs et c'est grâce à eux que nous pouvons espérer, c'est vrai, bâtir un Congo pays solution, un Congo stratégique sur le plan climatique mais aussi sur le plan de l'avenir de la technologie.
Merci encore à vous.
C'était notre invité, Maître Olivier Ndolé, qui s'entretenait avec Bernadette Nyangui. Et voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée, coordonné par Richard Junior Kamunga et supervisé par Alain Iron Mouchinj. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.